Les cours du Collège de France, paléo-anthropologie du genre Homo, Jean-Jacques Hublin.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette série de cours. Alors je sais que certains vont me le reprocher, mais c'est encore une année avec un petit peu moins de cours. C'est lié à mon activité d'enseignement en dehors du Collège de France, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Enfin, comme on va parler de la mort et que c'est un mauvais moment à passer, je me suis dit, il valait mieux que ça soit pas trop long quand même. Alors, je suis très heureux de vous voir si nombreux aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans cet amphi. Et je dois dire que j'étais quand même un petit peu inquiet quand j'ai choisi le thème du cours, parce que je me suis dit que ça pouvait en refroidir quelques-uns. Il faut vous dire qu'on a eu récemment les résultats d'une enquête à laquelle vous avez participé d'ailleurs, qui a été menée pour apprécier la fréquentation des cours, alors dans les amphithéâtres et puis aussi sur Internet. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le cours de paléoanthropologie est celui qui est le plus suivi de tous les cours du Collège de France. Donc ça, c'est très très bien. Mais alors, c'est aussi celui où il y a quand même une proportion assez élevée, disons, de gens d'âge mûr. Et donc, je me suis dit, encore une fois, peut-être que la mort va être quand même un peu répulsive, encore que c'est un sujet qui nous concerne tous. Hein. Donc voilà, on va parler cette année de la mort. Alors, vous allez voir, c'est un peu compliqué parce que la mort, elle est liée à des tas de problèmes, des problèmes de santé, des accidents, des choses comme ça, qui ne se terminent pas toujours par la mort. Hein, mais il faut bien quand même les évoquer. Donc, vous verrez qu'il y a, une zone grise où on parle, par exemple, de paléopathologie, et de problèmes de santé des gens qui ont vécu dans la préhistoire. Alors, manifestement, ça ne leur a pas facilité la vie, mais ça n'est pas forcément terminé par une issue fatale. Mais enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même faire un petit commentaire aussi. C'est que vous l'avez peut-être appris par la presse ou autrement, mais j'ai récemment publié un ouvrage. Ça s'intitule « La tyrannie du cerveau ». Et cet ouvrage, c'est un ouvrage, effectivement, où il est beaucoup question de cerveau, mais qui est quand même un ouvrage où j'ai rassemblé beaucoup de matériel de mes cours, en fait, ici au Collège de France, donc sur des tas de sujets qui tournent autour de l'évolution humaine. Et pour ceux qui le liront, vous verrez que dans les remerciements, et dans les premières lignes du remerciement, je remercie le public du Collège de France, donc vous, parce que vous m'avez, si je peux dire, forcé, contraint à clarifier mes idées sur tout un tas de sujets, à vous présenter l'évolution humaine d'une façon qui soit pas toujours orthodoxe, on va dire, hein. Et donc finalement cet ouvrage c'est quand même un peu le fruit de nos efforts conjoints, alors mon travail à moi mais aussi votre pression amicale pour me faire aller parfois dans des chemins de traverse, donc je vous remercie beaucoup pour ça. Alors on va aborder plusieurs sujets. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui tourne autour, disons au sens large, de la pathologie, c'est-à-dire en gros des problèmes de santé qu'ont pu connaître nos ancêtres les plus lointains. Et on va commencer par tout ce qui est de l'ordre des traumas liés à des accidents. Et vous allez voir que la vie des hominines dans le passé a quand même été assez mouvementée. Et alors, évidemment, on va commencer aujourd'hui avec Lucie. Vous savez que Dimanche, c'était l'anniversaire de sa découverte, hein, le 50e anniversaire de sa découverte. Donc voilà, en tout honneur, on va parler d'abord de Lucie. Et Lucie a été l'objet, il y a pas très longtemps, d'un travail sur les causes de sa mort. Alors, Lucie a été l'original, le squelette, 40% du squelette d'un Australopithecus afarensis, a fait une tournée dans différents musées états-uniens qui ont payé fort cher pour avoir un prêt du matériel. Et donc, lorsque le squelette de Lucie est passé au Texas, des collègues, en particulier le professeur Kappelmann, ont profité de l'occasion pour réaliser des scanners à haute résolution du squelette de Lucie, ce qui n'avait pas vraiment été fait jusqu'alors. Et cette analyse donc tomographique a donné lieu à une étude, en particulier des fractures qu'on peut observer sur le squelette. Et ses collègues ont reconnu un certain nombre de traumas. Alors, on en a plusieurs sur le membre supérieur, sur le pied, sur les mains, sur les bras. Et leur interprétation de ce qu'ils ont observé, c'est que Lucie, en fait, est morte à la suite d'une chute assez spectaculaire, de peut-être une dizaine de mètres de hauteur. Et donc, cette chute a provoqué un certain nombre de fractures qui seraient typiques de ce genre d'accident. Et en particulier, voilà ici un humérus, hein, donc l'os du bras, tel qu'il est reconstitué et tel qu'il était au moment de la découverte. Et vous voyez que la tête de l'humérus est en quelque sorte impactée dans la diaphyse, hein, elle est rentrée dans la diaphyse avec un éclatement de l'os autour. Et ça, c'est ce qu'on observe quand quelqu'un tombe de très haut et tombe les bras en avant, et donc ça provoque tout un tas de fractures, et en particulier ce télescopage de l'humérus avec l'épaule. Et donc voilà, il y a toute une série de fractures, donc encore une fois, le pied, le genou, le bassin, et alors surtout les membres, les côtes, le crâne, la mandibule, qui sont expliquées par Kappelmann et ses collègues par une chute d'un arbre. C'est leur hypothèse qui aurait provoqué la mort de Lucie. Alors ce travail, il a suscité pas mal de commentaires, parfois des commentaires négatifs, hein, des gens qui ont dit mais non, en fait ces os, ils sont cassés naturellement par la compaction des sédiments. Alors quand même, ce que je vous ai montré sur l'humérus là, c'est quand même assez troublant. Évidemment, les os dans le sol, ou dans le sous-sol, ils peuvent se fragmenter. Alors, en général, quand c'est une fragmentation longtemps après la mort, donc sur de l'os sec, c'est une les os se brisent perpendiculairement à leur allongement, hein, un petit peu, c'est comme du bois mort qu'on casse, hein. Alors que quand ce sont des fractures qui interviennent autour de la mort, un peu avant ou un peu après, sur de l'os frais, donc là on a plutôt des cassures hélicoïdales. Et alors les auteurs présente une des fractures de l'humérus comme une fracture hélicoïdale, donc qui serait une fracture périmortaine. Alors, ce qui est quand même, enfin, dans ce débat sur les fractures de Lucie, ce qui est assez frappant quand même, c'est que, dans le fond, les gens qui sont plutôt pour cette interprétation et ceux qui sont plutôt contre, en réalité, et c'est pas toujours dit de mon point de vue, s'oppose pas tant sur les fractures que sur l'arbre. Hein. Parce que vous savez, depuis la découverte de Lucie, et donc depuis 50 ans, il y a eu des tas de discussions pour savoir quel était le mode de vie, la locomotion de Lucie. Et donc, en gros, pour simplifier, hein, il y a eu deux écoles. Il y a des gens qui ont dit, voilà, elle est bipède. Alors ça, tout le monde est d'accord, hein, sur le fait qu'elle est bipède. Elle a un membre inférieur de bipède, un bassin de bipède. Mais en particulier en France, mais pas que, il y a des chercheurs qui ont dit, attendez un peu, oui, elle est bipède, mais quand on regarde son coude, son épaule, la forme de ses phalanges, eh bien, on a un membre supérieur, un peu allongé d'ailleurs, qui est un membre supérieur qui a conservé des caractères qui sont les caractères qu'on observe chez des grands singes qui vont dans les arbres. Là encore, il y a des gens qui ont dit, oui, d'accord, mais c'est une sorte d'héritage qui est présent dans l'anatomie, mais qui ne correspond pas à un mode de vie, et puis d'autres, au contraire, qui ont dit, mais non, Lucie allait dans les arbres de temps en temps. Alors, évidemment, si elle allait dans les arbres, elle pouvait tomber d'un arbre. Hein. Et donc, autour de cette histoire d'arbres, en fait, on retrouve ces deux écoles, des gens qui sont contre, si je peux dire, la fréquentation des arbres par Lucie, et puis ceux qui l'ont défendue. Alors, ce genre de mortalité, d'accident lié à des chutes, on va le retrouver chez d'autres fossiles plus récents. Et voilà, par exemple... Un autre exemple qui est celui de l'Australopithèque Australopithecus sediba qui a été découvert en Afrique du Sud qui est un Australopithèque très tardif hein, autour de 2 millions d'années qui a des caractères tout à fait particuliers et on a trouvé deux individus assez bien conservés, vous voyez, ce sont des squelettes, pas complets, mais en fond, il y a pas mal d'os représentés. Et ces individus, ils ont été retrouvés dans un site qui est un dépôt de karst au pied d'une espèce de cheminée, de puits. Il y a beaucoup de sites australopithèques sud-africains qui se présentent en fait comme ça, hein. C'est-à-dire des cavités creusées par l'eau dans des massifs de calcaire dolomitique. Et puis, donc, ces cavités fonctionnent comme des sortes de pièges à fossiles. Alors, quand on dit des pièges à fossiles, ce n'est pas seulement des fossiles qui tombent dedans, c'est aussi des individus qui, avant de tomber, sont en bonne santé, mais qui, quand ils arrivent 10 mètres plus bas, ne sont pas forcément en très bonne santé. Et donc, on a plusieurs exemples comme celui-là. Et donc, dans le cas de ces deux individus de Malapa, eh bien, un peu comme sur Lucie, hein, on a des fractures. Alors, je ne sais pas si on les voit bien sur cette diapositive. Vous voyez des petites traces bleues et des petites traces rouges. Et donc, certaines de ces fractures semblent bien être des fractures périmortem. Donc là encore, on a... Alors peut-être pas une mortalité qui est liée à la chute elle-même, mais au fait que des australopithèques qui tombent d'une dizaine de mètres dans une cavité dont ils ne peuvent pas ressortir, surtout s'ils ont des fractures, ils vont mourir là tôt ou tard. Et donc c'est comme ça qu'on les trouve. Alors cette traumatologie donc liée à des chutes, à des accidents de toutes sortes, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long du Pléistocène. Alors, je n'ai pas l'intention de vous faire une liste exhaustive de tous les spécimens où on a trouvé des traces comme celle-là, parce qu'ils sont innombrables, hein. Mais je vais plutôt m'attacher à quelques exemples et à quelques problèmes. Donc, on va faire un saut dans le temps et on va s'intéresser aux hommes de Néandertal. Alors pourquoi ? Parce que avec les hommes de Néandertal, on a un échantillon qui est assez important. On a pas mal d'individus et on a des squelettes complets. Et donc on peut regarder à quoi correspondent tous ces traumatismes squelettiques. Et il y a maintenant pas mal d'années, donc c'est en 1995, il y a deux chercheurs américains, Berger et Trinkos, qui ont publié un article sur la traumatologie des Néandertaliens en regardant quelle était la distribution de ces fractures qu'on pouvait observer sur le squelette. Alors, encore une fois, ces fractures ne sont pas des fractures qui ont entraîné la mort, mais en tout cas, elles nous donnent une image de ce qui pouvait arriver à ces gens-là, et parfois, effectivement, l'issue pouvait être fatale, mais pas toujours. Alors, ce qui est assez intéressant quand on regarde ce qui se passe chez les Néandertaliens, et que l'on compare... Alors, les Néandertaliens sont représentés par ces petits carrés noirs, là. Quand on compare ce qu'on observe chez les Néandertaliens avec d'autres groupes, alors, essentiellement des groupes d'hommes modernes, de chasseurs-cueilleurs récents, eh bien, on observe que la distribution des fractures, des traumatismes, des accidents, des écrasements sur le squelette, elle est quand même assez différente. Bon, pour ce qui est encore une fois de cette distribution, ce qui est le plus frappant, c'est qu'on a une très grande proportion de traumatismes crâniens. Donc, c'est quelque chose qui existe dans d'autres groupes, hein, mais qui chez les Néandertaliens est très très important en proportion, à peu près 30% donc des individus qu'on connaît. Eh bien, il leur est arrivé quelque chose à la boîte crânienne, donc ils ont des fractures. Alors souvent, ce sont des fractures ou des traumatismes crâniens qui sont cicatrisés, mais parfois, ils ne sont pas cicatrisés. Hein. Et puis, en comparaison, on a assez peu de lésions qui concernent les jambes et les pieds. Alors, dans ce papier qui est très connu, Berger et Trinkhaus ont fait une comparaison entre ce qu'on observait chez ces Néandertaliens et ce qu'on observe chez les cavaliers qui font du rodéo, c'est les Américains, hein. Et... ils ont publié ce graphique qui est assez spectaculaire, puisque, en gros... Ce qui montre que cette distribution des fractures, des traumatismes, elle est très similaire chez les cavaliers de rodéo et chez les Néandertaliens, avec beaucoup de traumatismes crâniens, de fractures, en gros du membre supérieur et du tronc, et beaucoup moins de problèmes au niveau des jambes et au niveau des pieds. Et ça, c'est une distribution de traumatisme qui est assez différente de ce qu'on trouve, j'allais dire, dans la moyenne de la population. Parce que dans la moyenne de la population, les fractures des jambes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent, normalement, qu'on attend beaucoup plus. Alors, surtout dans les sociétés où il y a beaucoup de voitures. Donc, on a pas mal de chances de se faire casser une jambe. On a en général des proportions beaucoup plus élevées. Alors la conclusion de cette étude, ça a été de dire finalement c'est assez normal qu'on trouve chez les Néandertaliens des fractures qui ressemblent un peu à ce qu'on trouve chez les cavaliers de rodéo. Pourquoi ? Parce que avec l'équipement qu'ils ont pour chasser, c'est-à-dire pas vraiment d'armes pour tuer à grande distance, eh bien, ils sont obligés de se confronter à des ongulés de grande taille à proximité. Hein. Donc, c'est un peu le principe du rodéo. Enfin, même s'ils ne montent pas sur le dos du bison, mais ils sont quand même confrontés directement à ces animaux. Et donc, la probabilité est assez élevée qu'il leur arrive tout ce qui peut arriver à un cavalier de rodéo. Alors, par la suite, cette conclusion, elle a été quand même un petit peu... tempéré par les auteurs eux-mêmes, en particulier par Trinkos, qui donc, quelques années plus tard, a publié un papier pour réviser un petit peu cette interprétation et en mettant en avant un certain nombre d'autres explications possibles sur cette distribution très particulière des traumatismes sur le squelette néandertalien. Alors d'abord, en ce qui concerne la fréquence relativement faible des fractures des jambes ou des pieds, Il a fait remarquer, à juste raison, et peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard dans le cours, mais il a fait remarquer que chez ces néandertaliens, comme d'ailleurs chez les chasseurs paléolithiques d'une façon générale, eh bien, il y a une nécessité de mobilité qui est très très importante. Et que donc, autant on peut, si je peux dire, survivre à une fracture de la main, du bras, voire même un traumatisme crânien, autant une fracture du fémur, par exemple, une fracture des membres inférieurs d'une façon générale, peut entraîner la mort simplement parce qu'on ne peut plus se déplacer et que ce genre d'accident peut arriver non pas à la maison, si je peux dire, mais quelque part au cours des déplacements, parfois loin des habitats, et que dans des circonstances comme ça, les gens à qui ça arrive, eh bien, ils restent sur place et ils finissent par mourir. Et donc on ne retrouve pas leurs restes dans les sites archéologiques. Et donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait plausible. Ensuite, il y a la possibilité d'observer plus ou moins facilement les traces de ces traumatismes. C'est vrai que le crâne, si je peux dire, ça enregistre bien tout ce qui peut arriver de cet ordre-là. Et puis alors, il a mis aussi en avant un problème qui, à l'époque de son premier papier, était quand même pas tellement évoqué, qui est celui des violences interpersonnelles entre néandertaliens. Et le fait que probablement un certain nombre de traumatismes crâniens qu'on observait n'étaient pas le résultat d'accidents, mais étaient en fait le résultat d'agressions entre les individus. Alors on a beaucoup évolué là-dessus. Un de mes cours, d'ici je crois 15 jours, va être consacré à ces questions de violence et d'agression. Mais on a beaucoup changé notre vision des choses au cours, disons, des 20 dernières années. C'est-à-dire quand même, on est passé d'une vision très pacifiste de la préhistoire à des données de plus en plus convaincantes sur, en fait, des signes de violence, en particulier chez les Néandertaliens, qui aboutissent à ces traumatismes crâniens. Alors, je vous parle des Néandertaliens, mais on sait maintenant que ces traumatismes crâniens, ils sont présents même chez des formes beaucoup plus anciennes. Et je vous montre ici un crâne qui a été trouvé en Géorgie, dans un site qui est très très célèbre, qui est le site de Dmanisi. Alors, ce site de Dmanisi, il est daté autour de 1,8 million d'années. Et c'est le site où on a trouvé les plus anciens hominides en dehors d'Afrique, qui soient assez complets, bien datés, et personne ne discute leur âge. Après, il y a des traces d'hominines peut-être plus anciennes ailleurs, mais qui ne sont pas aussi convaincantes. Et donc, à Dmanisi, on a des formes qui sont d'ailleurs des formes assez particulières. Certains ont voulu créer une espèce nouvelle, Homo georgicus. Mais pour beaucoup de paléanthropologues, on considère que c'est une forme primitive d'Homo erectus. Donc voilà un des individus de Dmanisi, qui porte le joli nom de D2280. Et donc ce D2280, quand on le regarde de près, eh bien, on trouve justement un certain nombre d'impacts sur sa voûte crânienne. Et ces impacts, quand on fait des scanners du crâne, on se rend compte que c'est des zones qui ont en fait subi un traumatisme. Et ce traumatisme, il a été cicatrisé. Donc vous voyez, on a un amincissement de la paroi crânienne, une disparition du diploé, c'est-à-dire la partie spongieuse qui sépare deux tables compactes. Et ça, on trouve ça à plusieurs endroits sur le crâne. Alors évidemment, c'est... On peut toujours discuter, dire oui, il a pris une pierre sur la tête par accident. Ça fait beaucoup de pierres sur la tête par accident. Et puis vous verrez, on en parlera donc quand je vous parlerai de ces histoires de violences interpersonnelles. S'il n'est pas possible de conclure à un coup intentionnel plutôt qu'à un accident juste en regardant les effets sur le crâne et la façon dont ça cicatrise. Par contre, il y a un argument qui a été déployé par d'autres que ceux qui ont étudié le crâne de Manici dès 2280, c'est la localisation de ces impacts. Et cette localisation, elle est souvent située de, enfin, elle se situe de telle façon que, en fait, ça traduit le fait que quand c'est un coup volontaire qui est porté par un droitier. Et donc, on voit qu'il y a une distribution de ces impacts, c'est-à-dire si je vous frappe sur la tête avec ma main droite, c'est sur le côté gauche de votre crâne que vous allez avoir un impact. Et on voit bien qu'il n'y a pas une distribution, j'allais dire, symétrique de ces impacts sur le crâne. Et donc ça colle pas tellement avec l'idée que c'est accidentel. Mais ça, on va en parler un peu plus dans deux semaines à propos d'un site en particulier où on a de nombreux crânes qui ont subi ce genre d'accident. Donc, accident, chute, fracture, confrontation avec peut-être avec du gros gibier qui se défend, et puis agression, on reviendra là-dessus. Alors une autre cause de mortalité qui a été assez bien démontrée chez les hominines, surtout les hominines anciens, c'est la prédation de grands carnivores sur les hommes ou sur des hominines plus anciens, et en particulier, je crois la première fois qu'on a vraiment bien mis ça en évidence, ça a été avec des restes de paranthropes du gisement de Swartkrans. Donc on est autour d'un million et demi d'années. Et en particulier, un paléontologue sud-africain qui s'appelait Brain a beaucoup étudié la façon dont les ossements d'Australopithèque s'accumulaient dans ces puits dont je vous parlais tout à l'heure. Et l'idée de Brain, c'est qu'en fait, une partie du matériel que l'on trouve dans ces sites, en fait, a été apporté par les carnivores, et en particulier les léopards. Ils ont l'habitude de hisser dans les arbres certaines de leurs proies quand ils peuvent pour les mettre à l'abri des charognards. Et donc, il suffit qu'il y ait un léopard qui soit pas très loin d'un gouffre comme celui-là pour que les restes de ces repas finissent par tomber dans ce gouffre et s'accumuler au fond dans des dépôts qui vont se bréchifier, qui vont donner ces gisements très très riches en Afrique du Sud. Et alors, parmi les crânes de Swartkrans, il y en a un d'un jeune individu qui porte des perforations sur le crâne qui correspondent exactement à la position des crocs, donc inférieur et supérieur d'un gros félin. Et donc c'est, je pense, l'exemple le plus ancien et peut-être un des plus spectaculaires de ce genre de comportement. Mais en fait, depuis, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était assez répandu. Je vais vous donner quelques autres exemples. Alors, toujours en Afrique du Sud et toujours avec des paranthropes, le site de Cromdraai. Dans le site de Cromdraai, où on a découvert beaucoup de ces paranthropes, c'est même là qu'on a découvert pour la première fois le genre Paranthropus, on a des restes d'hominines qui manifestement ont été grignotés, mâchonnés par des grands carnivores. Donc ça, c'est une patella, c'est-à-dire c'est une rotule du genou. Ça ressemble plus à grand chose, mais c'est un bassin qui a été complètement rogné tout autour. Et donc on voit bien que la consommation de ces hominines par des carnivores, c'est probablement un des facteurs principaux d'accumulation de fossiles dans ces sites. Et toujours pour rester à Admanissi, pour revenir à Admanissi, voilà à nouveau notre crâne dès 2280. Donc, je vous rappelle, il a pris des coups sur la tête pas mal de fois au cours de son existence, mais ça n'a pas suffi. Lui aussi, il a fini quand même par se faire attraper par probablement un gros félin. Il y a plusieurs espèces qui ont été proposées et on trouve le même genre de perforation que ce que je vous ai montré sur, sur l'individu de Swartkrans. Autre exemple que nous avons publié il y a quelques années avec Camille Daujard, c'est un diaphyse de fémur humain qui a été trouvé dans un site qui s'appelle la grotte des hominidés à la carrière Thomas, près de Casablanca. Donc on est autour de, pas très loin, de 800 000. Hein. Et donc là encore, on a un os long qui a été mâché, grignoté aux deux extrémités. Et on pense que très probablement, c'est une hyène qui est à l'origine de ces marques. Alors dans ce site de la carrière Thomas, on a trouvé plusieurs restes humains qui sont trouvés de façon un peu dispersée au milieu de restes d'autres mammifères dans un site où il y a assez peu d'outillage, par exemple, et donc qui ressemble quand même beaucoup à un site créé par l'accumulation des restes de repas de carnivores ou de charognards comme les hyènes. Et alors évidemment on peut spéculer hein, parce qu'on peut dire oui cet individu il n'a pas été tué, mangé par un carnivore, il est peut-être mort pour une toute autre raison, et ensuite son corps a été récupéré par des charognards et il a fini dans la tanière d'une hyène. Mais quand même, cette accumulation de restes humains dans cette tanière, ça quand même suggère qu'il y a quand même très probablement une prédation des carnivores ou de ce carnivore sur les restes humains. Et on pourrait multiplier les exemples, je vous en donne encore un ou deux quand même. On va avancer dans le temps avec les Néandertaliens. Donc avec les Néandertaliens, on a aussi des exemples comme ça d'action des carnivores sur les restes humains. Une des choses que je trouve les plus spectaculaires, ce sont ces dents qui ont été découvertes alors dans le site de Marillac, qui s'appelle parfois aussi les Pradelles, en Charente. Et dans ce site, on a trouvé... Or, encore une fois, c'est un site où il y a une présence humaine avec un peu plus d'outillage et d'activité humaine qu'à la carrière Thomas, mais quand même un site où les carnivores, et en particulier les hyènes, sont extrêmement présentes. Et on a trouvé des dents, d'ailleurs, qui ont été au départ faussement identifiées comme des dents de bovidés ou de cervidés à cause de leur morphologie, avant qu'on ne se rende compte que, en fait, cette morphologie, elle était due au fait que ces dents avaient été digérées et que les sucs gastriques ont, dissous en grande partie les racines dentaires en leur donnant une forme un petit peu bizarre par rapport à ce qu'on devrait trouver sur des dents humaines, et en fait sont des incisives supérieures humaines qui ont été avalées par probablement une hyène et rejetées par la hyène, et donc on les trouve comme ça en partie digérées avec une corrosion tout à fait particulière. Et depuis, on s'est rendu compte, surtout en consultant des publication qui avait été faite sur différents sites, qu'en fait c'était quelque chose qui était peut-être assez banal. Donc vous voyez, encore une fois, il n'y a pas que les Homo erectus ou les Australopithèques qui finissent dans l'estomac des hyènes, les Néandertaliens aussi. Et pour finir beaucoup plus près de nous, et toujours dans ces histoires d'interaction entre les carnivores et puis les hommes. Je veux quand même vous citer un exemple qui est assez célèbre, la grotte du Bichon, qui est près de la Chaux-de-Fonds, en Suisse. Alors là, on est vraiment dans la frontière entre le paléolithique et le mésolithique. Et dans cette grotte du Bichon, on a trouvé quelque chose de... Alors, c'est pas un site archéologique classique, hein, on n'a pas des niveaux avec des occupations humaines, mais ce qu'on a trouvé, c'est un squelette d'ours et un squelette humain qui sont enchevêtrés l'un dans l'autre. À côté de ces squelettes, on a trouvé une grande quantité de pointes de projectiles, 27, hein, qui sont des pointes de projectiles, des lamelles à dos, des pointes un peu courbes, dont on pense que ce sont des pointes qui servaient probablement de pointes de flèche ou quelque chose comme ça. Et donc on a sur l'ours des traces, des traumatismes, en particulier une troisième cervicale avec un éclat de silex à l'intérieur. Et cette vertèbre cervicale d'ours, elle n'a pas cicatrisé, hein, donc on pense que c'est quelque chose qui est contemporain de la mort de l'ours en question. Mélangé avec ce squelette d'ours, donc il y a les restes d'un jeune homme, une vingtaine d'années. Et le scénario qu'on a reconstitué de tout ça, bah, c'est que un chasseur asilien fléché une ours qui devait être blessé. Il a peut-être un peu trop surévalué l'effet de ses flèches sur l'ours, mais il a eu la mauvaise idée de rentrer dans la grotte où l'ours était peut-être mourant, mais pas si mourant que ça, puisqu'il a fini par oxyre le chasseur. Et donc le chasseur et l'ours ont fini, j'allais dire pour la postérité, ensemble dans les sédiments de cette grotte. Et si vous allez en Suisse, il y a un musée qui s'appelle le Laténium, où il y a le Laténium, c'est le musée où sont rassemblés tout le matériel archéologique qui vient du site de l'Athènes, hein, qui est une période de l'âge du fer, qui est un musée absolument remarquable. Et donc vous pouvez aller voir les découvertes de la grotte du Bichon. Alors on va laisser maintenant les problèmes de traumatisme, de fractures et d'interaction avec les carnivores pour s'intéresser à tout ce qui tourne autour des infections et des maladies. Alors les hommes du paléolithique, surtout quand on remonte un petit peu loin dans le temps, au paléolithique moyen ou au paléolithique inférieur, ont été exposés à toutes sortes de pathologies. Là encore, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de tous les exemples qu'on connaît, mais simplement vous situer un petit peu le genre de problèmes de santé que pouvaient avoir ces gens-là. Alors, la première chose qui est absolument frappante quand on regarde des séries de ces périodes-là, sont les problèmes dentaires. Alors, on a quand même des gens qui ont une denture qui est soumise à des stress de toutes sortes, qui s'usent, qui se détériorent quand même assez vite. Hein. Il y a une usure rapide de la denture. Et donc, on trouve, dès que les adultes sont des adultes un petit peu, entre guillemets, avancés en âge, on va trouver des tas de problèmes dentaires, des pertes de dents, des résorptions de l'os au niveau de la gencive, des histoires d'abcès, de choses comme ça. Ça ne devait pas être très marrant. Hein. Et un des exemples, je vous en montrer un ou deux, mais un des exemples, je trouve, les plus spectaculaires, c'est ce crâne de Cima de los Huesos, qui est un crâne très bien conservé, très complet. C'est souvent celui qu'on montre, hein, à propos de ce site. Alors, je vous rappelle que Cima de los Huesos, c'est un site qui est daté autour de 430 000, Et c'est le site en Europe où on a les plus anciens restes qu'on peut attribuer à la lignée néandertalienne. Alors ça a été confirmé par la paléogénétique, hein, c'est-à-dire c'est pas juste la morphologie. Ce sont pas vraiment des néandertals classiques, si je peux dire, puisqu'ils sont assez primitifs par certains aspects, mais clairement c'est le début de cette lignée néandertalienne en Europe. Et donc on a dans ce site, dont on va reparler plus tard dans le cours, on a 28 individus qui ont été apparemment intentionnellement jetés dans un puits. Et donc ils ont fini dans ce karst profond où leurs ossements se sont accumulés. Il y a des centaines d'os brisés qui tous plus ou moins peuvent être rassemblés dans les restes squelettiques de ces 28 individus. Alors celui-là, c'est un des mieux conservés. On lui a donné le prénom de Miguelon. Et Miguelon, vous voyez, il a quand même une denture qui est extrêmement abîmée, extrêmement usée. Et alors, en plus de ça, Miguelon, il a pris un coup. Alors, vous allez voir, c'est justement un des sites où on a des signes d'agression assez brutaux entre les individus. Il a pris un coup sur le côté gauche du maxillaire, qui a créé un traumatisme osseux très important, qui a cassé la racine de la première prémolaire, et ça a créé une infection très importante qui est devenue chronique, qui ne s'est pas guérie, qui devait être accompagnée quand même de douleurs assez considérables et d'une déficience fonctionnelle masticatoire, en plus d'une déformation très importante du visage. Donc voilà le maxillaire de Miguelon au scanner. Vous voyez que le côté gauche du maxillaire est complètement épaissi, c'est-à-dire c'est une réaction de l'os à cette infection massive. Alors en plus, la P3 qui s'est cassée, il s'est créé un abcès derrière, en haut à l'extrémité de la racine, et donc cet abcès. Voilà, il y a une fistule qui s'est créée avec du pus qui devait s'écouler. Enfin bon, c'est pas terrible hein, tout ça. Et donc voilà quelque chose quand même d'assez spectaculaire qui a donné probablement à Miguelon un aspect assez particulier. C'est probablement, enfin, c'est un des exemples les plus spectaculaires hein, de ces problèmes dentaires, maxillaires, mandibulaires, d'une façon générale. Mais en fait, c'est quelque chose qui est assez trivial dans le registre paléontologique. Et on connaît de nombreux exemples donc de problèmes dentaires chez les Australopithèques et chez les formes plus anciennes. Alors, ça peut aller parfois à des extrémités tout à fait extraordinaires. On revient à nouveau à Admanissi, donc on est à 1,8 million. Hein, et donc voilà un Homo erectus ancien qui a perdu totalement toutes ses dents, supérieures et inférieures. Bon, inutile de vous dire que ça ne facilite pas la vie, hein. Donc là, ces gens-là, ils n'ont pas de dentier, ils n'ont pas de prothèse, hein, et donc on en parlera la semaine prochaine, mais on a beaucoup discuté donc de cette absence complètement cette absence totale de dents sur cet erectus, qui pour beaucoup implique un soutien du reste du groupe pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir accéder à une nourriture qui est, qu'il puisse ingérer. Alors, à côté de tous les problèmes dentaires, masticatoires que je viens d'évoquer, il y a une autre grande catégorie de pathologies qu'on trouve chez les hommes du Pléistocène, c'est tout ce qui tourne autour des pathologies articulaires. Alors donc, de l'arthrose, de l'arthrite, ça, il y en a énormément. Et ça a donné lieu à des tas de travaux sur de nombreux hommes fossiles. Donc là, je vous donne un exemple qui est un exemple très très connu, qui est celui du Néandertalien de la Chapelle aux Saints. Donc voilà, voilà un squelette sur lequel les taches de couleur localisent ces pathologies. Donc toutes les taches rouges que vous voyez, au poignet, au coude, à l'épaule, sur les vertèbres, au niveau de l'articulation coxo-fémorale. Tout ça, c'est de l'arthrite. Donc ce pauvre homme de Néandertal, il avait quand même perdu ses cartilages articulaires. Et donc, il devait avoir de très gros problèmes de locomotion, des douleurs. Alors à cela s'ajoutent des fractures, qui sont, par exemple des fractures des côtes qui sont réparées, et on a une altération en particulier des vertèbres cervicales qui est très très importante. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont de l'arthrite du coup, mais ils savent de quoi on parle. Alors ce qui est intéressant avec ce squelette de la Chapelle aux Saints, c'est que on l'a récemment réexaminé. Alors toujours pareil, c'est aussi parce qu'on a accès à des microscanners qui permettent d'aller vraiment dans le détail de toutes ces altérations du squelette. Et alors en particulier, on s'est rendu compte que sur les vertèbres, mais aussi dans la région de l'articulation coxo-fémorale, hein, donc de la hanche, on a non seulement ces problèmes d'arthrite, mais aussi des formations osseuses qui se développent à distance même de l'articulation, et qui est quelque chose qui n'est pas lié à à l'évolution d'une arthrose très poussée, mais qui est plutôt lié à une maladie qui est une maladie infectieuse qu'on appelle la brucellose. Autrefois, on appelait ça la fièvre de Malte. Et c'est une maladie qui est transmise par les animaux aux hommes et qui est due à des bactéries du genre Brucella, d'où le nom de brucellose. Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que la brucellose, c'est quelque chose qu'on peut attraper, que les hommes attrapent. Alors en consommant des produits laitiers qui sont contaminés, etc. Mais c'est aussi une maladie qu'on peut attraper dans les abattoirs. Donc les gens qui manipulent des carcasses d'animaux, qui les débitent ou qui consomment de la viande crue, eh bien, ils peuvent être infectés par cet agent pathogène de la brucellose. Et alors, alors, il y a plusieurs espèces de brucella hein, que l'on trouve dans une large gamme d'animaux sauvages, en particulier les chamois, les bouquetins, les bovins sauvages, le bison d'Europe, par exemple, le renne, le chevreuil, le cerf élaphe, le sanglier et les chevaux. Donc, inutile de vous dire que là, je viens de vous faire la liste à peu près de tout ce que les Néandertaliens pouvaient manger. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait remarquable. Il est probable que c'est quelque chose qui a eu de... Attendez, je suis allé un petit peu trop vite, qui est quelque chose qui a pu avoir un impact sur la santé de ces hommes. Ce qui est important aussi à considérer, c'est que cette brucellose, elle donne un certain nombre de symptômes. Alors, il y a des fièvres, des choses comme ça. On peut même avoir des problèmes neurologiques. Mais ça a aussi un impact sur la fertilité, ça provoque de la stérilité, ça provoque des avortements. Donc si des Néandertaliens autre que ce vieil homme de la chapelle aux saints avait la brucellose à cause de la consommation de tous ces gibiers et du débitage de ces carcasses, eh bien, ça a pu avoir une importance pour la santé de ces groupes. Alors, on n'a pas trop de choses du style cancer, tumeur, etc. Mais on en a quand même quelques exemples, et en particulier sur des fossiles qui peuvent être très célèbres. Alors, le fameux homme de Cro-Magnon qui a été découvert en 1868, donc près des Aisies en Dordogne. Alors, cet homme de Cro-Magnon, depuis l'époque de sa découverte, on s'intéresse beaucoup à cette large érosion qui se trouve sur son os frontal. Et donc, on s'est demandé un petit peu ce que ça pouvait être. C'est intéressant quand même de relever à propos de ce genre de débat que un des problèmes de la paléopathologie, c'est que généralement, quand on trouve sur le squelette des traces comme celle-là, il est rare qu'il y ait une seule explication possible. Et ça, c'est une des difficultés de la paléopathologie, c'est que souvent, un certain nombre de possibles, et les gens qui font de la paléopathologie, ils sont obligés de choisir entre tous ces possibles pour prendre celui qui, de leur point de vue, est le plus probable. Alors, dans le cas de cet homme de Cro-Magnon, on pense qu'il s'agit d'une neurofibromatose de type 1, qui est une maladie génétique et qui occasionne le développement de tumeurs bénignes autour des nerfs périphériques, à la fois superficiels et profonds. On parle de neurofibrome. Et ça provoque aussi des taches sur la peau. Mais vous voyez que dans le cas de Cro-Magnon, il ne devait pas trop se préoccuper des taches parce qu'il avait vraiment un autre problème. Et donc, vous savez, on présente toujours l'homme de Cro-Magnon, beau, grand, etc. Bon, voilà, celui-là, il avait quand même, il devait avoir un visage quand même assez déformé par ses... par ces nodules. Cette maladie semble avoir aussi affecté son conduit auditif interne d'un côté, donc il devait être un peu sourd d'un côté d'une oreille. On a pas mal d'exemples. Comme le temps est limité, je ne vais pas vous en montrer trop, mais on a pas mal d'exemples dans le registre fossile d'oreilles internes ou d'oreilles moyennes qui ont des problèmes, hein, des ossifications, des choses comme ça qui font que les gens n'entendaient pas très bien de cette oreille-là. Alors, je vous ai dit qu'on n'a pas trop de cancers et de choses comme ça, mais ce n'est pas toujours vrai. Voilà un pariétal, donc c'est l'os sur le côté de la tête, hein, d'un enfant qui a été découvert en 1969 dans le site du Lazaret. Le Lazaret, c'est près de Nice. Donc c'est l'équipe du professeur de Lumley qui avait découvert ce fossile. Il a environ 50 000 ans. Et vous voyez que sur la surface interne de l'os, on a toute une zone avec une série de perforations. Hein, l'os paraît criblé. Et alors à l'extérieur, là, par contre, il y a une très très forte altération de la table externe, et donc ça on l'interprète comme un méningiome, donc qui est une tumeur des enveloppes du cerveau, hein, les méninges. Alors en général, ces méningiomes sont des tumeurs bénignes dans à peu près 80% des cas, mais il y a des cas où ce sont des tumeurs qui sont beaucoup plus agressives, et dans le cas de cet enfant, on pense que ça a provoqué sa mort. Alors voilà, pour ce qui est des maladies et des affections les plus courantes, je voudrais maintenant dire un mot des épidémies. Alors, dans les temps paléolithiques, on n'a pas vraiment d'exemple d'épidémie, en fait. Il faut surtout attendre le néolithique, ça sort un petit peu de mes sujets habituels, mais au néolithique, là, on voit se développer des épidémies. Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant du point de vue démographique et aussi du point de vue de la recherche, la façon dont on peut étudier ces questions-là. Alors au néolithique, c'est-à-dire au passage de cultures de chasseurs-cueilleurs à des cultures à des sociétés d'agriculteurs, eh bien on voit des changements démographiques très très importants se produire. Un de mes collègues, le regretté Jean-Pierre Bocquet-Appel, s'est beaucoup intéressé à ces questions démographiques. Et vous savez que, vous ne savez pas, mais c'est assez difficile de reconstituer les profils démographiques des populations du passé. Je vais en dire un mot dans quelques instants. Essentiellement parce que on peut assez facilement déterminer l'âge au décès de jeunes individus, des enfants, des adolescents, des très jeunes adultes. Par contre, on a deux problèmes. L'un sont les personnes âgées. Je vais y revenir dans quelques instants, mais on s'est rendu compte que c'était assez difficile d'estimer l'âge des gens très âgés à la mort. Et puis aussi les très jeunes, les nouveau-nés, très souvent dans les sites archéologiques, ils nous manquent. Alors ils nous manquent pourquoi ? Parce que d'une part, leur reste se conserve mal, et donc il y a une sous-représentation des nouveau-nés, des très très jeunes enfants. Et puis aussi parce qu'il y a de nombreuses sociétés où les très jeunes enfants ne sont pas traités comme, s'ils décèdent, ne sont pas traités comme les adultes ou les enfants plus âgés. Et donc souvent, ils sont pas représentés dans les sépultures, dans les sépulcres. Alors Bocquet a eu l'idée, au lieu d'essayer de reconstituer des profils démographiques qui restait très très incertain, il a essayé de regarder plutôt la proportion des enfants au-dessus d'un certain âge, disons des adolescents par rapport aux enfants plus jeunes. Ça, on savait représenter leur ces groupes-là. Et ce qu'il a montré, c'est que au moment au passage du néolithique, on a une augmentation très très importante de la proportion d'enfants jeunes. Et ça, la seule façon dont on peut l'expliquer, c'est une augmentation très importante de la fécondité féminine. Donc en gros, durant leur vie reproductive, les femmes, après la transition néolithique, elles ont en moyenne deux enfants de plus que ce qu'elles avaient avant la transition néolithique. Et ça s'est traduit par une augmentation très spectaculaire de la population au moment du néolithique. On pense que la population mondiale, elle a été multipliée peut-être par 10 au moment du néolithique. Alors, ce qui est remarquable aussi, quand on regarde ce qui se passe dans les cimetières qu'on essaie, donc là, c'est un 133 cimetières où on étudie la proportion des 5-19 ans par rapport au reste de la population sépulcrale, vous voyez que cette courbe, elle fait un bond, donc qui correspond à cette augmentation de la natalité dont je parlais, mais ensuite ça va s'arrêter, ça va se stabiliser, ça va même redescendre un peu. Et la façon dont on explique ça, donc il y a un décalage d'à peu près 1000 ans entre les deux, la façon dont on explique ça, eh bien, c'est en fait le développement de la mortalité. Et cette mortalité, elle est liée au développement de maladies épidémiques. Et ces maladies épidémiques, elles se développent. Pourquoi ? Elles se développent essentiellement parce que justement, il y a cette augmentation de la population. Surtout au début du néolithique, on pense que les conditions d'hygiène dans les premières agglomérations d'agriculteurs ne devaient pas être très formidables. Et puis alors aussi, encore une fois, la densité de population et la fréquentation d'animaux d'élevage en grande quantité, c'est quelque chose qui a entraîné un développement de ces maladies épidémiques. Et on a d'ailleurs observé dans le génome des hommes, de différentes régions du monde où le néolithique se développe, des changements dans toute la partie du génome qui correspond à la réponse immunitaire à certaines maladies, des choses comme la lèpre par exemple. Donc on voit ces modifications du génome qui est sans doute liée au développement de ces épidémies. Et donc on a reconnu dans le néolithique déjà un certain nombre de maladies qui sont, j'allais dire, des maladies qui nous sommes familières dans les périodes historiques, voire même dans la période actuelle. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart de ces études maintenant portent moins sur les traces de ces maladies sur le squelette, ce que je vous ai montré jusqu'à présent, que sur la recherche des agents pathogènes eux-mêmes, en particulier par l'ADN ancien. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait des restes squelettiques, du matériel génétique, donc on met de côté tout ce qui est génome humain, et puis on recherche ce qu'il y a du côté des virus, des bactéries, et on trouve par exemple dans le néolithique, alors ce n'est pas dans le début du néolithique, mais on trouve dans le néolithique des morceaux d'ADN de Yersinia pestis, qui est l'agent pathogène de la peste. Et donc la peste, ça commence déjà dans le néolithique. On a en Allemagne, en Scandinavie, des souches de la peste qui sont présentes dans le néolithique. Et puis vous voyez que pendant le néolithique et l'âge du bronze, il y a des tas de... Alors on peut faire une phylogénie de tous ces micro-organismes. On compare les séquences génomiques de différentes souches, et puis on peut retracer l'histoire comme ça, donc de vagues de développement de la peste dans le néolithique, dans les périodes historiques. Hein, là, ce que vous avez là-haut, c'est la peste noire du Moyen Âge, la peste justinienne. Enfin, il y a tout un tas d'explosions de peste dans les périodes antiques et plus récentes. Mais on voit bien que la peste, elle est déjà bien présente en Eurasie pendant le néolithique, et ça explique probablement pourquoi, ça on s'est un peu demandé pourquoi dans le néolithique il y a des développements de certaines certains ensembles culturels qui parfois périclitent de façon un peu inexpliquée. Donc on a souvent expliqué ça par des problèmes de surexploitation, par exemple, des terres agricoles avec des techniques qui n'étaient pas très bonnes. On a aussi imaginé, quand une culture, entre guillemets, est remplacée par une autre, des conflits, des choses comme ça. Mais de plus en plus, on se rend compte que probablement des vagues d'épidémies comme des vagues de peste ont probablement joué un rôle important dans ces espèces de crash démographiques qu'on observe dans le néolithique. Alors, bon, je vous rappelle que dans les périodes historiques, la peste a provoqué de véritables catastrophes. Hein, la peste noire, la peste du XIVe siècle, il y a entre un tiers et la moitié de la population de l'Europe qui a disparu. Hein, donc c'est vraiment quelque chose de majeur. Et donc il y a de nombreuses études maintenant qui recherchent donc les génomes de ces agents, on a comme ça reconstitué des arbres phylogénétiques de différentes... Alors, au départ, ce qu'on reconstitue sont des arbres phylogénétiques des micro-organismes concernés, essentiellement des bactéries, mais en même temps, ça nous donne une image de l'évolution de ces maladies dans le temps, et puis aussi de périodes auxquelles elles ont pu se développer. Alors il y a quand même une petite difficulté, c'est que, et d'ailleurs c'était déjà vrai pour la peste, c'est que dans le fond, au cours de l'évolution de ces agents pathogènes, il se produit des mutations, donc c'est ce qu'on met à profit pour reconstituer ces arbres, hein. Mais ces mutations, elles peuvent rendre, extrêmement virulentes des maladies qui étaient déjà présentes, j'allais dire à bas bruit, qui étaient là, mais dont le caractère catastrophique en termes épidémiques n'était pas aussi marqué que ça. Et ça, ça explique sans doute le fait que parfois, pour certaines maladies, eh bien, on a une espèce de discordance entre l'établissement d'arbres comme celui-là et puis ce qu'on observe en termes de signes de la maladie dans le registre archéologique. Donc là, l'exemple, c'est celui de la tuberculose. Alors la tuberculose, on a longtemps cru que c'était quelque chose qui avait été transmis aux hommes par le bétail, parce qu'il y a de la tuberculose bovine. Donc en gros, le scénario, c'était avec la domestication des bovins, les hommes sont mis à côtoyer des troupeaux qui étaient porteurs d'une forme de tuberculose, et donc ils ont, si je peux dire, acquis la tuberculose à travers cela. Alors, ce scénario-là, ça existe pour d'autres maladies, hein, pas que la tuberculose, la rougeole, enfin, il y a tas de maladies qu'on lie à ce qu'on appelle des zoonoses, hein, des maladies qui se diffusent dans les animaux domestiques. Alors, dans le cas de la tuberculose, la tuberculose, les signes, parce que ça peut laisser des traces squelettiques, on n'en connaît guère avant le néolithique. Mais la reconstitution de cet arbre de différentes formes de tuberculose, enfin de mycobactérium, montre qu'en fait, probablement, la présence de la tuberculose chez l'homme, c'est beaucoup plus ancien que la domestication du bétail, puisqu'on parle de 70 000 ans. Hein, donc, ça, c'est pour vous dire simplement que, même si c'est quelque chose qu'on a du mal à mesurer, eh bien, ces maladies épidémiques, alors peut-être sous des formes qui ne sont pas très virulentes, ont pu, pour certaines, exister déjà chez ces chasseurs-cueilleurs. Et alors, c'est quelque chose qui a reçu une forme de confirmation il n'y a pas très longtemps, avec un travail qui a été mené sur un néandertalien qui vient de l'Altaï, dans un site qui s'appelle Chagirskaya. Et ce site de Chagirskaya, il a été énormément étudié par mes collègues paléogénéticiens de Leipzig, qui ont extrait de l'ADN de tout ce qui... Il y a une centaine de fragments osseux humains néandertaliens dans ce site. Et donc, on l'a énormément étudié. On a vraiment des résultats tout à fait extraordinaires, hein, sur, je crois que j'en avais parlé dans un de mes cours déjà, mais sur le fait qu'on peut reconstituer les relations de parenté entre les individus. On a parfois des relations père-fille dans un site archéologique, ce que je trouve assez extraordinaire. On peut montrer que les individus mâles qui ont été trouvés dans ce site, c'était des individus qui étaient apparentés, alors que les femmes semblent venir d'ailleurs, de l'extérieur. Donc tout ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et en menant tout ce travail, eh bien, au milieu de cet ADN de néandertalien, on a trouvé du matériel de virus, qui sont des virus qui provoquent des maladies. Et quand on compare ces virus à la version, actuelle de ces virus, on se rend compte que ce sont des versions assez différentes. Et donc, on a pu écarter comme ça la possibilité que ces virus ils soient présents dans le matériel osseux à la suite d'une contamination, hein, parce qu'il y en a un qui donne le rhume, hein, donc la probabilité qu'un paléontologue ait un rhume est quand même assez... on peut difficilement la négliger. Mais là, on a quand même des virus qui ont des séquences génétiques qui sont assez différentes. Alors on a, sur cet individu-là, donc il vivait il y a à peu près 50 000 ans, on a un herpès, on a un adénovirus qui aujourd'hui est responsable, donc je parlais du rhume, d'angine, de pharyngite, de conjonctivite, de choses comme ça. Et puis on a un papillomavirus qui est sexuellement transmissible. Donc voilà un exemple où là on est chez les Néandertaliens, donc on a ces maladies-là qui sont évidemment transmissibles et qui sont maintenant bien identifiées. Alors évidemment, ça nous sort un petit peu de, voilà, des histoires de se faire manger par les hyènes, de tomber, de se casser un os ou de prendre un coup sur la tête. Donc c'est cet aspect-là de la pathologie, c'est quelque chose auquel on a peu accès jusqu'à présent, mais je suis certain qu'avec le développement des études en paléogénétique, on va de plus en plus pouvoir mettre cela en évidence. Alors, puisque je parle de ces histoires de maladies épidémiques, je ne peux pas ne pas évoquer quelque chose qui a été souvent mis en avant, c'est-à-dire la possibilité qu'en fait l'extinction de certains groupes, en particulier les Néandertaliens, ben, elle soit liée justement à la contamination par des Homo sapiens venant d'Afrique, porteurs de je ne sais quelle maladie, qui aurait comment dire, mis fin au succès adaptatif des Néandertaliens. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on peut complètement rejeter, mais bon, pour ma part, je suis relativement sceptique. Alors, c'est un. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs arguments qui quand même mettent un peu en doute ce scénario. D'abord, la durée de recouvrement entre tous ces groupes-là. C'est-à-dire que, vous allez voir, il y a un article qui va sortir dans pas longtemps dans Science, qui présente la date de d'introgression de l'ADN néandertalien dans le génome des non-africains et qui propose aussi une durée de cette introgression. Et vous allez voir, je ne veux pas trahir mes collègues, mais vous allez voir que c'est une durée quand même en millénaire. Hein. Donc on est très très loin du scénario du type contact entre les Européens et les Amérindiens, où on a en quelques générations quasiment un continent où la population s'effondre à cause de maladies comme épidémiques. Là, ça dure des milliers d'années, donc c'est manifestement pas brutal. Ensuite, bon, évidemment, il y a aussi la taille des populations. On a affaire à des populations qui sont très petites, très clairsemées. C'est pas quelque chose qui est propice au développement foudroyant d'une épidémie. Donc, je pense que s'il y a eu des pathogènes qui sont passés dans un sens ou dans l'autre, eh bien, il y a eu du temps pour développer une immunité. Et puis, bon, après, il y a aussi le fait que, en fait, le problème n'est pas, je l'ai souvent dit ici, le problème n'est pas la disparition des Néandertaliens, le problème, c'est qu'il n'y a pas que les Néandertaliens qui ont disparu, tout a disparu en dehors des sapiens. Et donc, à chaque fois que les sapiens sont allés quelque part, les populations archaïques locales ont disparu. Je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre ça uniquement sur le dos de la maladie. Alors au final, évidemment, une fois qu'on a regardé toutes ces histoires de maladies, de traumatismes, de les causes de mortalité en général, se pose évidemment la question de savoir quelle était la structure démographique des populations du passé. Donc, j'en ai déjà parlé un petit peu ici. Voilà des pyramides des âges dans des populations de chasseurs-cueilleurs récentes. Hein, donc là, par exemple, des pygmées. Alors vous voyez, ce sont des pyramides qui sont très, très larges à la base et puis qui se réduisent. Évidemment, c'est très différent des distributions en toupie des populations modernes. Hein. Alors, ça traduit quoi ? Ça traduit qu'il y a une très, très grande mortalité infantile et qu'en gros, il y a très peu de gens qui dépassent 65 ans. Hein. Là, chez ces pygmées, je crois que c'est 2% de la population qui dépasse 65 ans. Et alors, évidemment, on aimerait bien pouvoir reconstruire des pyramides comme celle-là pour les temps paléolithiques, pour les Néandertaliens, pour des Homo sapiens du Paléolithique supérieur. On a essayé, mais je dois dire avec peu de succès. J'ai dit il y a quelques minutes, je le répète, c'est autant on peut déterminer l'âge à la mort de jeunes individus, notamment des enfants, autant dès qu'on a affaire à des individus d'un âge avancé, bah, ça ne marche pas très bien. Alors ça ne marche pas très bien, pourquoi ? Bah, c'est simple, hein, c'est parce que, on le sait tous, hein, le vieillissement, il ne se fait pas à la même vitesse pour tous les individus. Donc les signes physiques du vieillissement, ce n'est pas quelque chose qui est directement, facilement corrélable à un âge calendaire. Alors on a essayé, on a regardé par exemple la fermeture des sutures crâniennes, on a regardé l'évolution de certaines articulations, là il s'agit de la symphyse pubienne. Donc on sait que toutes ces choses-là évoluent au cours du temps, hein, au cours de la vie de l'individu. Ça c'est aussi l'articulation costo-claviculaire. Donc tout ça, ça évolue, mais le problème c'est que ce qu'on observe dans une population actuelle, en termes de distribution de ces caractères, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas facilement transposable. Et en particulier, on s'est rendu compte que la population de référence qu'on prend, bien dans le fond, va influencer la détermination qu'on va faire sur les individus qu'on veut étudier. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous prenez comme population de référence pour établir tous ces critères de vieillissement, si vous prenez un cimetière militaire où vous n'avez que des gens qui sont morts en dessous de 30 ans, vous allez bâtir une référence très différente de celle que vous bâtirez si vous prenez un cimetière où tous les gens qui sont là sont des gens très très âgés. Et donc ça va biaiser les déterminations que vous allez faire. Alors le résultat, c'est que, ben, dans le fond, en général, on ne sait pas très bien à quel âge les gens sont morts. Hein. Donc voilà, j'ai parlé de lui tout à l'heure, hein, cet homme de la Chapelle aux Saints, vous savez, qui avait beaucoup de problèmes d'arthrose et de brucellose. Alors vous voyez, lui aussi, hein, il avait un sérieux problème dentaire. Ben voilà, cet individu, son âge, au début on l'a décrit comme un vieillard, mais il y a des estimations de son âge qui sont autour de 40 ans. Hein. Donc en gros, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'homme de la Chapelle aux Saints, il est mort quelque part entre 40 ans et un peu plus de 60 ans. Donc c'est quand même, vous voyez, quelque chose qui n'est pas très précis. Alors on a essayé différentes méthodes, alors sans vouloir vraiment déterminer l'âge précis, mais au moins en créant des classes, hein, donc voilà, enfant, juvénile, adolescent, jeune adulte, adulte ancien. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est que quand on compare, par exemple, des Néandertaliens avec des populations récentes, hein, de chasseurs-cueilleurs ou d'horticulteurs, bah, évidemment, ce qui frappe, c'est le très petit nombre d'adultes âgés. Alors, quel que soit leur âge, hein, plus de 40 ans, plus de 60 ans, c'est pas trop, mais vous voyez, ils sont très peu nombreux par rapport à ce qu'on observe dans ces populations-là. Alors ça, c'est un travail qui avait été fait par Eric Trinkos, qui est revenu un petit peu sur tout ça dans une publication plus récente. Et en fait, il en est venu à dire que finalement, il n'y avait pas une grande différence entre ce qu'on observait chez des Néandertaliens, des sapiens anciens du Paléolithique supérieur et même des sapiens du Paléolithique supérieur, et que le changement, c'était vraiment à l'Holocène, à la fin des temps glaciaires, avec le développement en particulier de l'agriculture. Alors vous voyez quand même que même s'il n'y a pas de différence significative entre statistiquement significative entre ce qu'on observe là et là, on voit quand même que la proportion d'âgé par rapport aux jeunes adultes, elle est quand même plus forte au Paléolithique supérieur que chez les Néandertaliens. Alors ces études, bah, elles ont été assez controversées, on va dire ça comme ça. Et en particulier, je veux vous citer un travail qui a été mené par Lee et Kaspari, Je ne sais pas pourquoi, mais toutes mes références bibliographiques ont disparu de ces diapositives. Et donc, Lee et Caspary, elles ont essayé, au lieu d'essayer de définir des classes d'âge précises en donnant des âges, elles ont utilisé des stades d'usure, de la denture, pour, en gros, définir des grandes classes sans vraiment les chiffrer, hein. Mais donc voilà, des gens qui ont l'AM1 un petit peu usé et le reste de la denture en bon état, et puis ensuite voilà, l'AM2 qui commence à s'user, et puis ensuite des catégories, c'est la troisième molaire qui est usée. Donc là, on n'essaie pas de définir un âge, mais on essaie de distribuer le matériel entre des grandes classes d'âge plus ou moins avancées. Et ensuite, on compare ce qu'on observe dans chaque groupe en termes de moyenne de la proportion des jeunes adultes par rapport à tout le reste de la distribution avec ce qu'on observe dans le groupe qui a précédé. Alors donc ça, ici, vous avez la mesure qu'on a observée chez les premiers représentants du genre homo. Donc c'est une moyenne de cette proportion des gens âgés sur les autres. Alors les autres, ici c'est les australopithèques, donc vous avez une distribution qui a été créée par une méthode de rééchantillonnage, et vous voyez qu'on voit que la moyenne des individus un peu plus âgés est plus grande chez les premiers représentants du genre homo que chez les australopithèques, dont probablement les premiers représentants du genre homo vivent un peu plus longtemps. Par contre, entre les néandertaliens qui sont représentés ici par cette barre verticale et puis tout ce qui précède dans le pléistocène inférieur et moyen, eh ben, on ne sort pas de la distribution. Donc, en gros, leur conclusion, c'est qu'il n'y a pas de changement très important à ce moment-là, en termes de longévité. Et donc, Lee et Caspary, c'est essentiellement entre les Homo sapiens du Paléolithique supérieur et les Néandertaliens qu'elle voit une très très grande différence. Donc, l'idée que ces auteurs ont défendue, c'est qu'en fait, c'est seulement au début du Paléolithique supérieur. Donc avec l'arrivée des Homo sapiens en Europe et le remplacement des Néandertaliens, qu'on va commencer à avoir une proportion significative. Significative, je vous rappelle, hein, chez les pygmées, c'est 2%. Hein. Enfin, disons qu'on commence à trouver des gens âgés dans le registre fossile. Alors quand même, pour terminer, je voudrais attirer votre attention sur les nombreux biais qui peuvent altérer ces tentatives de reconstitution démographique. Alors je reviens à cet argument que Trinkos a utilisé pour expliquer pourquoi on trouvait peu de fractures des jambes, des pieds, chez nos néandertaliens, alors qu'on trouve beaucoup plus de traumatismes crâniens, de fractures du membre supérieur, en disant que ça peut s'expliquer par le fait que ces groupes ont besoin d'être très mobiles. Donc la mobilité, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour eux. Et donc, voilà, si on a le fémur cassé ou le genou cassé, ben, on risque de mourir quelque part dans le paysage sans jamais revenir au lieu d'habitation. Et donc, cette nécessité de mobilité, on peut aussi essayer d'y penser quand on regarde tous ces profils démographiques, parce que pour des groupes qui doivent se déplacer pour assurer leur subsistance, eh bien, effectivement, il y a aussi la possibilité que des gens âgés qui peuvent plus se déplacer soient laissés derrière eux et soient abandonnés. Alors, évidemment, c'est un peu triste, hein, mais on a vu ça, on connaît ce comportement chez des groupes de chasseurs-cueilleurs, enfin, les Inuits, par exemple. Hein, et donc là, évidemment, ça entraînerait, si c'est vrai, hein, ça entraînerait une sous-représentation dans notre registre archéologique des gens âgés, parce qu'eux, ils sont pas dans le... Voilà, on ne les retrouve pas dans les habitats, on ne les retrouve pas là où tout le monde est enterré, où les os s'accumulent, mais ils finissent leur jour quelque part dans la nature. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Puis alors, il y a aussi un autre élément qui a été parfois mis en avant, parce qu'on est quand même très impressionné par le fait que, aussi bien chez les Néandertaliens, mais c'est vrai aussi dans les débuts du Paléolithique supérieur, on a, disons, les jeunes adultes sont très très représentés dans la documentation paléontologique. Donc apparemment, il y a une forte mortalité des jeunes adultes. Et ça, ça peut être aussi biaisé par autre chose qui est l'existence de ce qu'on appelle des profils de catastrophe. Alors, qu'est-ce que c'est un profil de catastrophe ? Eh bien, c'est ce qui se passe quand il y a une épidémie, il y a une famine, il y a quelque chose comme ça. Donc, quand il y a une épidémie ou une famine, ce qui meurt en premier sont les très vieux, enfin, ou les vieux et les enfants. Et ceux qui survivent sont les jeunes adultes. Et donc, ces jeunes adultes, si la catastrophe se poursuit, ils vont mourir aussi. Et donc, on a parfois des assemblages où il y a une surreprésentation des jeunes adultes. Pourquoi ? C'est la fin, si je peux dire, du profil de catastrophe. C'est-à-dire, c'est la population qui a survécu jusqu'au bout. Et donc là, ça peut créer dans certains sites, et c'est en particulier un argument qui a été employé à propos de ce fameux site de Cima de los Huesos, dont on va reparler plus tard. Il y a aussi une surreprésentation des jeunes adultes. On a dit, c'est parce que c'est ceux qui ont survécu jusqu'au bout, mais là, ils n'ont pas survécu. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.